Je suis ravie de vous retrouver ici sur Radio Galaxy pour de nouvelles émissions. Ces émissions sont celles qui vont me permettre de vous faire découvrir l'Ariège. J'ai la chance d'avoir pu éditer cette année 2017 un petit recueil de chroniques qui s'appelle « Mélanie m'a dit l'Ariège ». Et l'Ariège a beaucoup à dire. Donc c'est au fil de petites histoires que j'entre dans la petite histoire de ce joli département. Mélanie m'a dit l'Ariège, c'est un petit bouquin que vous pouvez trouver en librairie. Et c'est un petit bouquin aux éditions du Refuge qui raconte comment, par des anecdotes, on arrive aussi à rencontrer un territoire. Le personnage qui évoque toutes ces histoires, c'est une institutrice qui est directement issue des années 1900. Et cette institutrice, elle rappelle plein de petites choses qui ont pu se passer, plutôt drôles ou plutôt sévères ou plutôt tristes, des anecdotes qui se sont passées avant qu'elle n'arrive sur le territoire, dans ses écoles, et des petites histoires qui lui sont vraiment chères. Alors ce personnage d'institutrice, c'est un personnage que j'ai créé qui s'appelle Mademoiselle Eugénie. Alors Mademoiselle Eugénie, pour la présenter un petit peu, elle est en début de carrière, elle est fière de ses études parce qu'en 1900, être une femme institutrice demande beaucoup d'abnégation dans sa vie personnelle, beaucoup d'investissement, ça demande une autorité sur soi-même, ça demande une passion pour les arts, pour les lettres, pour la culture. Et ça demande aussi de vouloir transmettre. C'est un personnage pour moi qui est vraiment une identité qui aurait pu être la mienne il y a 100 ans, qui sait, dans des vies antérieures, on ne sait jamais. Mais cette institutrice, elle va très bien parce qu'actuellement, moi, je suis guide conférencière et je transmets un patrimoine, je raconte des histoires. Et bien voilà, ce personnage de Mademoiselle Eugénie institutrice, il est assez facile à incarner, mais aussi intéressant parce que grâce à ce personnage d'institutrice, quand je vais sur les sites touristiques, quand je vais dans les villes, que je me transforme en Mademoiselle Eugénie avec un costume fait sur mesure par mon amie Séverine, quand j'enfile cette grande jupe longue qui descend jusqu'à la cheville, avec ce chemisier à broderie, ou alors avec le camé qui vient s'installer là juste au ras du cou, eh bien, il y a un côté autoritaire, strict, du savoir, de la connaissance. Et c'est ce personnage-là qui va devenir un peu décalé, qui garde son côté sévère, mais qui raconte des histoires un peu loufoques, qui raconte des histoires un peu des secrets, des ruelles un peu sombres. Eh bien, voilà, c'est ce qui crée une recette, une atmosphère un peu rigolote. Et donc ce personnage d'institutrice Mademoiselle Eugénie, j'y tiens beaucoup. Et grâce à lui, j'espère pouvoir amener les uns et les autres dans un moment agréable au fil des visites guidées et aussi au fil de ce petit bouquin « Mélanie m'a dit l'Ariège ». Donc les émissions qui sont aujourd'hui présentées, imaginez-vous que c'est cette Mademoiselle Eugénie qui les raconte au travers de son regard de 1900 et qui va expliquer comment l'Ariège vivait à ce moment-là au travers de ses anecdotes. Faire découvrir l'Ariège au travers de visites guidées, c'est un exercice qui est vraiment très agréable et toute l'année, j'ai des associations qui viennent sur Ax-les-Thermes, sur Foix, sur Tarascon, sur Saint-Lizier, sur Mirepoix ou encore ailleurs, à la découverte de ce patrimoine. Donc une visite guidée, oui, mais là, le jeu, c'était de faire une visite guidée théâtralisée, mettre un petit peu de théâtre au cœur de cette visite classique, et donc incarner ce personnage d'institutrice, Mademoiselle Eugénie 1900, eh bien, m'a permis de voyager aussi. J'ai proposé dans différents villages d'Ariège de lui faire exhumer ses histoires anciennes. Et ainsi, Mademoiselle Eugénie s'est baladée dans le village de Sorate pour le Festival des Contes l'été dernier. Elle s'est baladée aussi à Ax-les-Thermes lors des Journées du patrimoine en septembre 2017. Elle a pu se balader également, elle a eu cet honneur-là, d'aller célébrer les 900 ans de la consécration de la cathédrale de Saint-Lizier en décembre 2017. Et là, c'était aussi un prétexte pour aller raconter ce qui se passe en 1900 à Saint-Dizier, notamment l'asile d'aliénés. Donc ce personnage permet de voyager dans toute l'Ariège. Et ainsi, dans ces petites émissions, je vous propose d'aller plonger dans un village nouveau à chaque fois. Aujourd'hui, je vous amène sur les rives de l'Ariège, entre Tarascon et Ax-les-Thermes, pour une chronique qui s'appelle « Spoulga du Val d'Ariège ». La rivière du Val d'Ariège parcourt plus de 175 km entre les montagnes Andorran et la Garonne. Son lit et ses méandres furent tracés il y a plus de 80 000 ans par le déplacement de formidables glaciers pouvant atteindre 500 mètres d'épaisseur. Le karst du bassin de Tarascon fut entamé pour mettre à nu des porches, des cavités et des réseaux souterrains plus ou moins vastes. Grottes et cavernes furent à toutes les époques de merveilleux refuges pour une population cavernicole qui s'égrena de la préhistoire à nos jours. Les premiers hommes à s'aventurer dans ces lieux, les Magdaléniens, peuplèrent ce carrefour de l'Ariège et son affluent du Vic de Sceaux. Le temps conserva, pour le bonheur des archéologues et des visiteurs d'aujourd'hui, du petit mobilier en os, en bois de renne ou en silex à la grotte de la Vache, mais aussi de fantastiques peintures à Niaud ou à Bédéillac. Bien plus tard, au XIIe siècle, certaines de ces cavernes accrochées aux parois abruptes de la montagne intéressent les comtes de Foix. Leur position haute en belvédère, dominant la vallée, facilitait l'observation de cette voie d'échange très fréquentée nommée Via Mercadal. Dès le début du XIe siècle, cette route de commerce permettait de relier la lointaine ville de Toulouse à celle de Barcelone, en passant par le col de Puymorens. Organisée comme la colonne vertébrale du comté de Foix, la vallée de l'Ariège se devait d'être défendue plus que tout autre. Ce fut fait grâce aux nombreux châteaux du comte et des seigneurs, Castelmau à Ax, Miramont, Montréal-de-Sault ou Calamès. Mais encore, sur certaines portions, notamment entre Lordate et Tarascon et dans la vallée du Vic de Sceaux, les promontoires manquaient et l'on opta pour la fortification de grottes surplombant la vallée. Ainsi, la défense était complétée par de rudimentaires points d'observation, les grottes fortifiées dites Spoulga. Ce nom de Spoulga vient du latin spelunca, qui a donné le terme de spéléologie. Installées en rive droite de l'Ariège, rive la plus fréquentée au XIIe siècle, elles étaient facilement aménageables. Souvent barrées d'un seul mur maçonné, entretenues avec peu de moyens, elles accueillaient une garnison de militaires, isolées des villages. À l'intérieur, les aménagements sont encore visibles. Une citerne, des encoches dans la paroi calcaire ayant reçu d'anciennes poutres et planchers à des hauteurs variables entre 2 mètres et 12 mètres selon la configuration de la grotte. Certaines cavités étaient accessibles par le seul moyen d'une échelle amovible. Sur un territoire où les châteaux perchés avaient une valeur symbolique, les grottes étaient moins ostentatoires, mais contribuaient tout autant aux glacis de défense du comté. Complètement intégrées au paysage, les Spoulga, comme celle des églises à Ornolac, de l'Ermite, de Verdun ou de Bouin, avaient pour objectif l'efficacité et la démonstration d'une présence. Elles veillaient comme les sentinelles postées aux endroits les plus fragiles de la défense des comtes de Foix. L'abandon de ces abris se fit sentir dès le XIVe siècle, pour la plupart, et au XVe pour la Spoulga de Bouin. Ne revêtant plus d'intérêt pour la protection d'un comté aux frontières se déplaçant peu à peu, elles furent laissées à l'abandon et pour certaines transformées en abris de bergers. D'autres accueillaient de multiples légendes de sorcières et de magie. Les 19e et 20e siècles firent revivre ces grottes fortifiées par l'engouement pour un mysticisme lié au cathare et au Saint Graal. Elles furent perçues comme le berceau de l'humanité et du catharisme. Afin de comprendre cette histoire, il nous faut revenir dans les années 1960, quand l'ancien directeur des thermes du Châtelet-Bains, Antonin Gadal, écrivait un ouvrage sur les lieux exceptionnels qui ont des liens entre cathares et espaces souterrains. Il affirmait que les cathares habitaient ces antres lointains, qu'ils en fortifièrent certains et que Lombrive servit de séjour à un évêque cathare. Antonin Gadal se faisait appeler le patriarche du Sabartès et était membre du centre de conférence du Lectorium Rosicrucianum du Châtelet-Bains, né de la rencontre de la Rose-Croix d'or néerlandaise et de ses théories personnelles sur le Saint Graal. Dès lors, ces grottes furent observées comme des centres d'initiation des cathares occitans, eux-mêmes héritiers d'une longue chaîne spirituelle rattachée au mystère d'Osiris. Alors comment dénouer le vrai du faux ? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire ? Anne Brenon, historienne, rappelle que cet ensemble mythologique fut relayé longtemps par les guides des grottes et tous les types de supports papier. À l'heure actuelle, certains sites internet cautionnent encore ces théories. Si l'on s'en réfère au registre de l'Inquisition, qui, eux, date du XIIIe siècle, bien le trésor des cathares fut mentionné comme transitant à la Noël 1243 dans une de ces grottes de la vallée de l'Ariège. L'une de ces spoulgas du Sabartès était tenue par un comte Arnaud de Châteauverdun pour le comte de Foix. Mais quelle était vraiment cette grotte ? Au XIXe siècle, Napoléon Peyrat, qui est un grand historien et chercheur intéressé par cette mystique cathare, traduit les registres de l'Inquisition et associe la spoulga refuge de ce trésor à celle d'Ornolac. Puis, par glissement d'anecdotes, à celle de Lombrive, qui était beaucoup plus monumentale. Il fit alors Damiel Écart, un personnage de l'époque, attesté simplement comme l'un des quatre bons hommes chargés de convoyer le trésor de Montségur, le trésorier de l'église cathare, puis le dernier évêque cathare. La grotte de Lombrive, loin de cacher le trésor des cathares, était en définitive le repère de brigands, et les archives le soutiennent. Ainsi, en janvier 1299, sont entendus par les bailes et consuls de Tarascon, puis par le comte Roger Bernat et ses barons, trois hommes, qui avaient été arrêtés en une grotte appelée Loubriga, pour fait de fausses monnaies dans la dite grotte. Un autre détail aurait influencé le directeur des thermes, Antonin Gadal. 500 cathares auraient été emmurés à Lombrive. Il est vrai que des ossements furent retrouvés dans la grotte, mais ceux-ci seraient datés d'une époque beaucoup plus ancienne. Napoléon Peyrat se fit le relais de cette légende, pointant la grotte comme le dernier tombeau des cathares. Il faut y voir une mauvaise interprétation de lecture. Les cathares furent effectivement emmurés, mais cette expression signifie qu'ils étaient enfermés au mur, prison des bons hommes située à Carcassonne et à la tour du Crieu. Il n'en fallait pas plus pour créer un formidable amalgame et faire de ces grottes le lieu de cristallisation des plus extravagantes hypothèses cathares. Trésors, ossements, grottes et fausses monnaies faisaient de ces étranges cavités fortifiées des lieux parfaits pour les chercheurs de vérité. Aujourd'hui, ces bouches béantes, qui furent jadis le refuge de vrais mystères, de fausses légendes et d'un quotidien somme toute banal, ont sans doute encore mille petites anecdotes à nous raconter. Soyons vigilants.